magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
8 milliards de voisins, c'est maintenant.
8 milliards de voisins, avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 8 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, eh bien, nous allons nous poser la question, quelle éducation scientifique au réchauffement climatique? Dans la salle de classe, comment expliquer le climat, les bases physiques du réchauffement, les impacts de la consommation d'énergie fossile qui provoque la surchauffe de la planète, les solutions, quand cela ne figure pas dans les priorités des programmes scolaires, de sciences ou d'économie? Comment rendre concret pour des adolescents et pour les enseignants la destruction de l'environnement comme un facteur clé de la modification de la vie sur Terre? Nous allons en parler avec une expérience tout à fait atypique. François Bernard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de technologie en collège à La Rochelle. Également en ligne avec nous, Heidi Sevestre, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes docteur en glaciologie, passionné par la transmission des connaissances. Vous participez à de nombreux documentaires grand public sur le sujet. Pouvez-vous d'ailleurs juste nous dire où êtes-vous aujourd'hui, présentement, comme on dit Heidi?
Écoutez, avec grand plaisir. Alors en ce moment, je vous parle de tout au nord de la planète, dans ce qu'on appelle l'Arctique, donc la région autour du pôle Nord. Et je suis dans ce petit archipel qui est administré par la Norvège, qui s'appelle le Svalbard ou le Spitsberg, qui est directement rattaché au projet auquel on va parler aujourd'hui.
Donc vous êtes tout près du pôle Nord et tous les deux, avec François Bernard, vous avez emmené une classe de 3e pour observer, donc des élèves de 14 ans en gros, hein, observer la fonte de la banquise et vivre une aventure scientifique par grand froid. Ces adolescents en sont revenus transformés et vous avec d'ailleurs, convaincus que face à l'inertie des acteurs politiques aujourd'hui, seule une génération vraiment informée pourra prendre un virage nécessaire en espérant qu'il ne soit pas trop tard. Vous racontez cette expérience dans un livre, Demain c'est nous, plaidoyer pour l'éducation au changement climatique, aux éditions du Faubourg. Également avec nous Simon Klein, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes médiateur scientifique à l'Office for Climate Education, docteur en écologie des pollinisateurs. Vous êtes plutôt sur la biodiversité. Donc,
exactement, et biodiversité et climat sont intrinsèquement liés, et
oui.
Donc on s'y retrouve.
Votre organisation contribue à aider les enseignants pour éduquer au changement climatique, à fournir du prêt à enseigner clé en main. Et quant à vous, les voisins et les voisines, partagez vos expériences d'éducation au réchauffement climatique. Eh bien, comment enseigner peut-être la forêt face aux nécessités d'une agriculture vivrière? Vos témoignages nous intéressent. Appelez-nous au 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
On échange.
Bonjour à tous les auditeurs des RFI.
8 milliards de voisins. On est ensemble.
Mais tout de suite, écoutez le témoignage, le message de cet auditeur sénégalais.
Bonjour les voisins, je m'appelle Arfan Sek, inspecteur de l'éducation et de la formation de la ville de Thiès, présentement en mission en Martinique à Fort-de-France. Chez nous au Sénégal, si vous allez à Rufisque, le quartier Tchaoulène qui se trouve en face de la cimenterie Sokossim, l'avancée de la mer a été très très fulgurante. Les cimetières ont été agressés, il y a eu l'école élémentaire qui a été délocalisée, l'école de Tchaoulène. Si vous allez à Saint-Louis également, le quartier de Guetner des Pêcheurs, en sortant de l'île, à Saliportugal, la station balnéaire. Bon, ici, là, je suis en Martinique depuis une semaine, j'ai été à la plage et j'ai vu une institutrice qui me disait qu'elle venait en vacances adolescentes. Il y a de cela environ 50 ans, mais si vous regardez, la maison n'est plus là parce que l'avancée de la mer a fini de faire ses effets. Dans le cadre du plaidoyer envers les enseignants, envers les élèves, moi, le discours que je leur tiens relativement au développement durable, je reprends la citation d'Antoine de Saint-Exupéry qui disait « Cette planète, nous ne l'avons pas héritée de nos ancêtres, mais bien au contraire, nous l'avons empruntée à nos enfants et nous devons leur rendre ça. » Et voilà pourquoi, au niveau de l'inspection de l'éducation de la ville de Thiès, nous avons pris des initiatives allant dans ce sens, parmi lesquelles le projet « École verte, école propre ». Il s'agit de, à travers un reboisement, reboiser les écoles. C'est pour aller jusqu'à former des élèves, des citoyens qui vont protéger l'environnement. Merci.
Simon Klein, peut-être une réaction à ce message d'auditeur?
Oui, alors déjà merci beaucoup. cher auditeur, pour ce témoignage en fait, qui fait écho à beaucoup de témoignages qu'on peut avoir, nous, à l'OCE. On travaille beaucoup dans différents pays, notamment en Afrique, et ça me fait penser, j'avais fait une mission à l'île Maurice, où on a des réactions similaires d'enseignants ou de personnes vraiment au ministère qui voient le recul des plages, qui voient l'avancée de l'érosion et qui, de manière impuissante, se disent comment faire entendre ces questions-là à leurs élèves. Et je me réjouis aussi de voir que ces enseignants se mettent au travail. Et cette mise au travail, elle passe par la mise en action de leurs élèves dans des projets comme le reboisement et cherchent aussi à trouver des pistes scientifiques pour enseigner les élèves.
Est-ce qu'on peut rappeler en quelques mots quel est le mécanisme de la montée du niveau de la mer ?
Alors, en quelques mots, on va essayer de le faire, on pourra le faire ensemble, mais effectivement, ce qu'on voit là sur les plages en Martinique ou au Sénégal ou à Maurice, est un mouvement global du niveau marin qui augmente inexorablement, et ce à cause de deux facteurs principaux qui sont tous issus du même facteur qui est le réchauffement global de notre planète, le réchauffement atmosphérique qui va avoir une influence directement sur les océans. Les océans en se réchauffant et l'eau en se réchauffant va prendre plus de place, ce qu'on appelle la dilatation thermique. Le fait que vous pouvez faire l'expérience vous-même, c'est ce qu'on voit en fait sur un thermomètre à mercure.
Quand on fait chauffer de l'eau dans une casserole.
Voilà, exactement. On va avoir un peu plus de l'eau prend plus de place et ce phénomène physique explique pour partie le fait qu'on ait une augmentation de l'océan. Et l'autre phénomène qui explique ça, c'est que l'augmentation des températures va influencer directement la fonte des glaces et notamment et principalement la fonte des glaciers et des calottes glaciaires qui vont déverser de l'eau douce qui est sur un continent directement dans l'océan. En fait, on rajoute de l'eau à de l'eau et donc on va avoir une augmentation de l'océan. Et attention, la fonte de la banquise n'a aucun effet sur l'augmentation de l'eau. Parce que c'est
pas
de
le glaçon qui fond et qui fait monter le niveau de la mer. C'est
voilà.
Pas dans ce sens-là. Hein.
C'est comme quand on a un verre de pastis avec un glaçon dedans. On aura toujours le même nombre de pastis dedans.
Heidi Sevestre.
Oui, je rebondis là-dessus avec grand plaisir et très très bonne explication de la hausse du niveau des mers qui s'accélère en ce moment. Et ce qui est important aussi de voir, c'est que l'on habite au bord de la mer ou pas, on va tous et toutes être concernés par ça. Quand je regarde les calottes polaires que j'ai pas très loin de moi ici, le Groenland et l'Antarctique contiennent suffisamment de glace pour augmenter le niveau des océans de 65 mètres. Donc c'est considérable, même si on perd une fraction de cette glace, on sait que ça va être voilà, les frontières qui vont être bouleversées, les activités économiques bouleversées. Et sur Terre, c'est 700 millions de personnes qui habitent seulement entre 0 et 10 mètres d'altitude. Je ne parle même pas des 65 mètres. Donc que l'on habite ou pas au bord de la mer, on sera toutes et tous touchés par ça, que ce soit par des mouvements de population, des pertes de terres agricoles. Et donc, il va falloir trouver des solutions, ça c'est très important.
François Bernard, vous enseignez à La Rochelle, tout près
oui,
de la mer.
Oui, oui.
Est-ce que vos élèves, avant de partir en Arctique, avaient déjà une notion de la perturbation du climat ? Le changement climatique, il a toujours existé, hein, sauf que là, il se passe dans le mauvais sens. Mais c'est cette notion des transformations actuelles ?
On peut pas dire vraiment parce qu'on est beaucoup, c'est beaucoup plus touché dans un petit peu plus bas en Aquitaine. Il y a le fameux bâtiment Signal qui se trouve tout près d'Arcachon, enfin voilà dans cette région, qui a été démoli récemment parce que justement ses fondations et ses bases étaient attaquées par la mer, voilà. À La Rochelle, à proprement parler, pas vraiment. On a eu l'épisode de Xynthia, mais l'épisode Xynthia je veux dire, on n'avait pas encore de précision par rapport au changement climatique.
Donc ça veut dire que vos élèves, ils partaient un peu du niveau zéro,
oui,
en fait, avant
voilà,
la préparation de l'expédition.
Voilà, les élèves n'étaient pas absolument conscients du changement climatique, en tout cas au niveau de la montée des eaux.
Dans un pays comme la France, Simon Klein, il est souvent rappelé que l'école fournit peu de culture scientifique. Hein. Qu'est-ce que ça pose comme problème? Parce que là, on a démarré l'émission avec des explications scientifiques. Qu'est-ce que ça pose comme problème pour une éducation aux mécanismes du réchauffement climatique ?
Alors, ça pose le problème principal que j'ai envie d'évoquer, ça pose des problèmes de confusion, et notamment dans des classes de primaire. Alors, il faut savoir que le plan science de l'éducation nationale a été un peu avorté et que la priorité n'est pas forcément à aller voir les sciences en primaire, notamment les sciences expérimentales. Et en fait, on a besoin d'une littératie scientifique quand on veut enseigner le changement climatique, et du coup, on en a besoin en termes de société, on a besoin de comprendre les phénomènes. Ce qu'on va trouver comme confusion, c'est beaucoup la question de la pollution, la question des déchets, qui viennent comme et même la question de l'ozone qui est encore très présente.
Mmh. Alors les déchets par exemple.
Les déchets par exemple, moi je vais vous raconter un peu une expérience. Je suis en train de faire une petite étude qualitative où je fais des interviews avec des élèves de 6e et je leur demande de me parler du changement climatique. Et tout ce qu'elles trouvent à me répondre, c'est on va enlever les déchets de la cour, ça va nous permettre de régler le problème du climat. Et là on voit vraiment la confusion et en même temps, d'une part, j'ai envie de les pardonner parce que la complexité du climat réside dans le fait que c'est quelque chose d'abstrait et d'invisible. Et le cerveau humain, et notamment en début de l'adolescence, est très focalisé sur le visible et sur faire des choses propres.
Ouais. Mais les déchets, c'est une toute petite partie des émissions de gaz à effet de serre.
Les déchets, en fait, c'est la fin de l'histoire, j'ai envie de dire. En fait, le début de l'histoire, c'est la production. C'est
quand production on va produire d'énergie fossile, notamment.
Voilà, d'énergie fossile pour produire des biens. Et si on veut s'attaquer aux déchets, en fait, il faut s'attaquer à la production et à la consommation. Et en s'attaquant à la consommation et à la production, que ce soit dans le milieu alimentaire, dans le milieu du textile, dans tous les milieux, là, on va s'attaquer vraiment à la base. La production nécessite des énergies fossiles, dans tous les cas. Et du coup, si on réduit notre consommation, on va pouvoir régler évidemment la question des déchets, parce qu'on produit moins de déchets, mais aussi la question de la production.
Donc, beaucoup de confusion sur l'importance des déchets dans les mécanismes du réchauffement climatique, hein, vous le disiez. Alors voilà. En fait, c'est vraiment en bout de liste. Mm-hmm. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas un problème, hein, ceci
non,
dit.
Non, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas un problème.
Mais autre confusion, quand on parle tout le temps à l'école primaire de développement durable, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut tout et rien dire, j'en ai peur. C'est pour moi un fourre-tout qui peut être préjudiciable, qui peut avoir la conséquence, comme on vient de dire, de dériver en fait très rapidement sur des choses beaucoup plus faciles finalement scientifiquement à faire entendre à des élèves, alors que je pense que c'est plutôt un problème de confiance, c'est-à-dire qu'il faut que les enseignants aient confiance et se fassent confiance. Le climat en fait c'est un phénomène qui est complexe parce que ça implique beaucoup d'éléments différents, mais une fois qu'on a saisi le principe global, ça devient limite ludique à enseigner et à comprendre. Et je pense qu'on a besoin d'expériences comme vous l'avez cité, de dialogue aussi avec des glaciologues, avec des scientifiques, pour faire entendre qu'on peut prendre à bras le corps la science du climat et on peut l'enseigner même à des plus jeunes.
Ça veut dire qu'on peut commencer dès l'école primaire à expliquer que le principal secteur d'émissions de gaz à effet de serre, c'est la mobilité. Deuxième grand secteur, l'agriculture. Est-ce que ça, tout ça, on peut l'expliquer à des enfants à l'école primaire?
On peut, effectivement.
Ou il faut repartir plus loin sur les bases même du climat?
Je pense qu'il faut... Alors, on peut faire tout de front, mais effectivement, il y a des approches qui nous permettent d'arriver, en fait, de ce que les élèves connaissent et vivent tous les jours, comme accroches, et typiquement l'alimentation, la mobilité, sont des bonnes accroches pour derrière expliquer qu'est-ce qu'il y a derrière. Et en fait, ce qui est vraiment important, ça va être d'expliciter l'invisible.
Ensuite. Donc on part du concret.
Voilà, on part du concret. Nous, on propose une activité notamment sur les ressources naturelles. Et on prend n'importe quel objet et on demande aux élèves qu'est-ce qu'il y a. Par exemple, dans ma chaussure, elle est faite de quoi? Et on retrouve finalement les différents éléments. Le cuir, ça vient des vaches. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Et en fait, comme ça, il y a tout un jeu d'explicitation et de rendre compte du cycle de vie et comment toute production a une influence sur le climat. Parce que toute production va avoir des émissions de gaz à effet de serre à différentes étapes de production.
Au lycée, au collège, au lycée, François Bernard, où en sont les élèves en général? Quelle est la place dans les programmes scolaires des chapitres consacrés directement au réchauffement climatique? Vous êtes professeur de technologie.
Voilà, je suis professeur de technologie et en collège. Ce qui se passe au lycée, c'est qu'il y a effectivement des lignes qui apparaissent dans les programmes, mais qui sont noyées, je vais dire, au milieu du reste du programme. Et il n'y a pas de lien qui est obligatoirement fait. C'est-à-dire qu'ils vont voir éventuellement des choses un peu en SVT, en sciences et vie de la Terre, donc en biologie. Ils vont voir des choses un peu en sciences physiques. Ils vont voir un peu des choses en géographie. Mais ils ne vont pas faire un lien entre tous ces éléments. Et je pense que ce qui est important, justement, c'est de créer le lien et de montrer que tout est relié. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important, sur lequel j'ai insisté.
C'est à partir de ces constats, hein, de ces manques... De ces manques dans la compréhension du fait que tous les éléments sont reliés, que vous avez conçu une expédition scientifique en Arctique pendant 10 jours avec des adolescents de 14 ans, donc élèves de classe de 3e. Avec vous, Heidi Sevestre, vous qui êtes précisément en Norvège à l'heure actuelle, pourquoi la banquise, c'est le lieu idéal pour faire comprendre l'essentiel à des adolescents, ça aurait peut-être été plus simple de les emmener en forêt.
Alors, c'est vrai que là où je suis aujourd'hui, nous sommes en fait à l'épicentre du dérèglement climatique. L'archipel du Svalbard, c'est l'endroit aujourd'hui qui se réchauffe le plus vite sur Terre. En fait, je suis dans un royaume de neige et de glace et on le voit directement, l'expression du changement climatique. Ici, il n'y a pas besoin de regarder dans les graphes, il n'y a pas besoin de regarder les statistiques. C'est extrêmement visuel ce qui se passe ici. Et la petite population de la ville où je suis, qui est la ville la plus au nord du monde, eh bien, subit de plein fouet le dérèglement climatique. Mais non seulement on se rend compte de ce qui se passe directement sur place, mais l'avantage à être ici, c'est qu'on a les meilleurs scientifiques au monde qui travaillent sur le sujet. Donc non seulement on peut découvrir ce paysage au travers de l'observation des émotions, ce qui est très très important, mais par-dessus ça, on peut très facilement rajouter cette couche très scientifique avec les meilleurs experts de la planète pour vraiment comprendre que ce qui se passe ici touche le reste de la planète. Et quand François et Simon parlaient de tisser des liens, ben c'est exactement ce qu'on cherchait à faire, c'est de montrer que La Rochelle, que la France, en fait, que le futur de notre pays est directement lié à ce qui se passe ici au cœur de l'Arctique.
Alors, je peux rajouter quelque François chose aussi, c'est que enfin, qui est important, c'est que dans des lieux comme le Svalbard ou au Pôle Nord, la nature est hyper présente. Et c'est-à-dire que même sur le territoire français, pour avoir comme ça justement une émotion et une imprégnation dans une nature immense, hyper présente, où l'homme est tout petit, c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup d'endroits ici où finalement la nature est domestiquée. Voilà. Donc en allant aussi dans ces lieux où la nature est très très forte, c'est comme voilà, c'est comme si on va en plein milieu du Sahara ou en plein milieu de la forêt amazonienne ou si on va au pôle Nord, on va dans des endroits qui sont des déserts naturels où l'homme est tout petit et où il est complètement soumis à la toute force et à toute puissance de la nature.
Les forêts d'Afrique centrale,
hein, oui, bien sûr,
Afrique subsaharienne. Bien sûr, vous pouvez nous appeler, les voisins et les voisines. Si vous avez eu l'occasion d'emmener des élèves, par exemple, au cœur de la forêt, vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. Comment on enseigne sur la banquise très concrètement, François Bernard ?
Alors très concrètement, ça nécessite de monter une expédition qui est obligatoirement sérieuse et bien prévue, puisque on se retrouve à des températures entre moins 15 et moins 20.
Au mois d'avril, là, l'heure où vous y êtes allé.
Alors, normalement, c'était intéressant, parce que moins 15 et moins 20 sont les températures habituelles du mois d'avril au Svalbard. Mais cette année-là, on commence déjà à ressentir une forme de réchauffement, puisqu'on a eu des températures qui ont frôlé le 0 degré, ce qui est absolument étonnant.
Et donc, on a connu des tempêtes, hein.
On a connu une tempête puisqu'on est parti donc en expédition avec des raquettes sur un glacier.
C'est pour marcher dans la neige.
Ah oui, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas des raquettes de tennis, c'est comme une raquette de tennis mais qu'on met sous ses chaussures pour pouvoir avancer dans la neige, voilà. Et on a planté des toiles de tente.
Les élèves au départ sont quand même médusés, voire totalement figés quand les guides norvégiens disent Eddie Sylvestre, non mais il y a une tempête, mais c'est bon, vous pouvez sortir et vous allez pouvoir dormir sous la tente, loin de tout.
C'est ça qui est très fort ici, c'est qu'on se rend pleinement compte de la force de la nature. Et François l'a très bien dit, on se sent vraiment mais tout petit quand on voit ici une tempête dans l'Arctique. Et c'est aussi ce qu'on voulait que nos élèves ressentent, parce que c'est très important pour eux d'intégrer cette dimension-là, mais vraiment au plus profond d'eux. Nous, les scientifiques, on essaie de partager notre science, voilà, avec des graphes, des rapports, des statistiques, mais ça ne suffit pas. On sait qu'il faut vraiment que ce soit intégré au plus profond d'eux-mêmes. Et voilà, quand on se retrouve nez à nez avec une tempête qui s'approche presque d'un ouragan, hein, ici dans l'Arctique, que la neige tombe à l'horizontale, que l'on ne voit pas à 5 mètres devant nous, et que malgré tout, on va quand même sur le terrain faire de la science, parce qu'on a aussi travaillé avec ces élèves sur le terrain, et ben je pense qu'ils ont pleinement compris deux choses, la force de cette nature, mais aussi à quel point ça reste très difficile de faire de la science dans ces régions-là, alors que c'est primordial, parce que ça nous aide à mieux comprendre voilà, comment notre planète change et comment on va pouvoir s'adapter à tout ça.
Et qu'il faut commencer par casser la glace pour monter son camp de base.
Oui, hein, c'est ça.
Ne pas oublier ses gants pour ne pas perdre ses doigts. Hein, c'est quand même aussi bête que ça.
Oui.
Mais comment on fait de la science dans ces conditions-là pour des enfants de 14 ans qui débarquent?
On fait de la science de... Bon, déjà, on avait la formidable chance d'être accompagné d'Heidi qui dirigeait toutes les opérations, donc qui connaît parfaitement le terrain, qui a l'habitude de ce terrain-là. Et donc, de façon très concrète, eh bien, voilà, on s'habille très chaudement, on enfile les gants, on enfile voilà, tout ça. Après, on va sur le terrain avec des pelles pour creuser des tranchées, on va dire, dans le glacier pour voir un peu les différentes couches. On fait des prélèvements, on fait des mesures de température, on fait des mesures de vent, on fait tout un tas de mesures et d'expériences scientifiques très concrètes en utilisant des outils basiques comme tout scientifique qui permettent de prendre des mesures. Et après, tous ces relevés, justement, ce qui était intéressant, c'est que les élèves ne faisaient pas ça juste pour s'amuser, je dirais. Ils le faisaient parce qu'ils savaient qu'au retour, on allait ramener tous ces résultats et les confronter, enfin, en tout cas, les apporter aux scientifiques qui travaillent à l'université du Svalbard et en discuter avec eux. Ils allaient nous expliquer, ils allaient essayer de nous faire comprendre ces chiffres et ce qu'on avait obtenu. Voilà. Et donc, c'était parfaitement concret. Ils avaient une vraie mission.
Ouais, une vraie mission qui se prépare longuement à l'avance. Quoique, vous ne dites pas tout en amont de l'expédition. Hein, vous racontez dans le livre, je n'ai pas spécifié que nous allions faire 12 km de marche le premier jour. J'ai annoncé que le premier campement était à une bonne demi-journée du point de départ. Par contre, le discours ferme était sans concession sur le matériel, sur l'entraînement physique. On va bien sûr en reparler. Et quant à vous, les voisins et les voisines, si vous avez des points de vue, des expériences d'éducation au réchauffement climatique, si vous êtes sur le continent africain, vous pouvez bien sûr nous appeler aussi au 33 7 64 45 51 41 pour croiser vos points de vue, vos expériences et vos témoignages qui nous intéressent. I'm descending of Jaya, Prince of Seren, slow down my sari, we depot no felele, director of settlement, the governor of Merriment. Oh yeah, tell me lossy party, I'll show you the evidence. I'm so tired, streets on fire, city nights will make you my own. Hustle tired, streets on fire, city nights will make you my own. Green, white, green flag flown, yeah, the vulture. Mommy left her home, took a flight, be the poster. Child, take note, in the wild, it's that kingdom come. Black skin, white world, that's my thesis done. Rock, paper, scissors, the mission is classified. I was doing 9 to 5, I've been lost in who am I's, who are you, who are we? I'm obsessed with breaking free. Big woman any, but for auntie, I still bend my knee. If I change, that's fine. Find a sweet one and go marry, that's mine. But you keep saying I don't fit in, man, I told ya. When you see me and my fam, that's culture. If you get chance, make you come Lagos. If they want dance, then go come pay us. If you get hands, make you come back at that. You go see, say, we no get palava. We define two brothers in the ghetto. And I told you, want it from the get-go. I know the sleeper, always on my ten toes. Married to the game and I no go let go. I'm so tired, streets on fire. City nights will make you my own. Hustle tired, streets on fire. City nights will make you my own. When you see me in my home, that's culture. Gun fingers in the air, that's culture. See the gelé and the hair, that's culture. That's culture, yeah, that's culture. The respect that I have, that's culture. Everything and who I am, that's culture. They keep calling us again, that's culture. That's culture, yeah, that's culture. If you get chance, make you come Lagos. If they want dance, then go come pay us. If you get hands, make you come back at that. You go see, say, we no get palava. We define two brothers in the ghetto. And I told you, want it from the get-go. I know the sleeper, always on my ten toes. Married to the game and I no go let go. I'm so tired, streets on fire.
City nights will make you my own. Hustle tired, streets on fire. City nights will make you my own.
Vous écoutez RFI, nous sommes en direct chez 8 milliards de voisins et nous poursuivons notre discussion passionnante. Quelle éducation au réchauffement climatique ? On en discute avec vous, bien sûr, François Bernard et Eddy Sevestre. Vous publiez « Demain, c'est nous », plaidoyer pour l'éducation au changement climatique et vous avez réussi ce pari fou d'emmener une classe de collégiens, de 3e, de 14 ans sur la banquise, tout près du pôle Nord, en Norvège. Et puis également avec nous, Simon Klein, qui est, vous êtes médiateur scientifique, hein, c'est comme ça qu'on dit, et vous fabriquez du prêt à enseigner sur le réchauffement climatique, puisqu'on le sait, les programmes scolaires dans de nombreux pays possèdent de gros trous hein, sur la transmission des connaissances scientifiques pour comprendre les mécanismes et comprendre aussi en quoi l'activité humaine est principalement et uniquement la cause du réchauffement climatique. Je voudrais qu'on donne la parole bien sûr à nos auditeurs qui nous appellent au 33 7 64 45 51 41 si vous avez des réflexions à partager avec nous sur cette éducation au réchauffement climatique. On donne la parole à Altiane. Bonjour Altiane.
Bonjour. Bonjour.
Vous nous appelez de Brazzaville, c'est bien ça Altiane?
Oui.
On vous écoute.
En ce qui me concerne, je fais comprendre à mes enfants qu'ils peuvent agir sur ce sujet qui est celui du changement climatique en menant des actions. Mmh. Voilà, oui.
Mais Altiane, vous souhaitez, je crois que vous avez dit à Delphine que pour vous, il y a un problème quand on parle du réchauffement climatique aux enfants. Qu'est-ce que vous vouliez dire ?
Exactement. Comme ne pas brûler des ordures, hein, parce que en brûlant des ordures, ces gaz toxiques peuvent détruisent plutôt la couche d'ozone. C'est ça.
Et quoi d'autre ? Sinon, vous aviez le sentiment aussi qu'on était beaucoup sur du négatif. Ou est-ce que vous pensez qu'on participe à développer de l'anxiété chez les enfants ?
Oui, bien sûr, parce que c'est notre environnement et le leur aussi. Et donc, nous devons tout le temps les sensibiliser en menant des actions, comme je venais de le dire. Et donc, pour éviter des maladies, comme c'est des maladies des poumons et autres. Donc, voilà.
Merci à vous, Altiane. Alors, c'est vrai que la pollution cause des maladies, que la pollution est effectivement en lien avec le réchauffement climatique, en tout cas l'activité industrielle. Simon Klein, on a besoin de vos lumières sur ce que nous disait Altiane.
Alors, il y a beaucoup de choses. Hein. Merci beaucoup, Altiane. Je pense que c'est intéressant, en fait, elle a montré, si j'ai bien compris, le fait qu'effectivement, pousser les élèves à l'action a complètement du sens et très cohérent avec la question de l'engagement au niveau des sciences du climat, mais peut aussi amener à des choses potentiellement contradictoires, comme peuvent l'être beaucoup de solutions apportées par les humains. Et notamment, voilà, effectivement, brûler des déchets pour réduire les déchets n'a pas vraiment... peut avoir un impact, effectivement, sur le fait qu'on ait moins de déchets, mais a un impact négatif sur et la santé et
Mais par exemple, le fait de brûler les déchets, est-ce que ça dégage beaucoup de CO2, de gaz à effet de serre, qui eux-mêmes participent au réchauffement climatique, créent le réchauffement climatique ?
Oui,
je sais pas si je le dis bien ou pas.
Oui, voilà, après, ça dépend. Enfin, les déchets, de toute façon, déchets plastiques, si on parle des déchets plastiques, en fait... Ce plastique-là, à la base, était des hydrocarbures, du pétrole, qui était à la base dans le sous-sol. Et donc, en fait, l'extraction a déjà eu des conséquences sur des émissions. Et effectivement, les déchets, soit en se dégradant, soit en les brûlant, vont dégager des particules de CO2 et de carbone dans l'atmosphère. Donc oui, brûler les déchets ou même les laisser en tant que déchets qui vont se décomposer au fur et à mesure du temps, dans les deux cas, on augmente l'effet de serre.
Mais ce n'est pas l'essentiel.
Mais ce n'est pas l'essentiel, parce que les déchets qui sont liés à l'activité individuelle ou familiale ou communautaire sont un des problèmes, et en fait on l'a évoqué tout à l'heure, il y a des grands chantiers sur l'alimentation notamment, sur l'agriculture intensive, sur le transport, sur l'utilisation de la climatisation dans les pays où ça commence à devenir de plus en plus important de climatiser pour le bien-être et pour le confort humain. Mais on se rend compte que ça aussi, ça a des conséquences sur
les émissions de gaz à effet de serre. La climatisation, ça participe à réchauffer la température à l'extérieur des bâtiments climatisés.
Et surtout, c'est consommateur d'électricité ou d'énergie, et donc ça émet de fait...
Électricité produite, par exemple, sur le continent africain, à partir du charbon.
Du charbon ou du gaz, oui.
Et ça utilise des gaz qui ont des effets qui sont 10 à 100 fois supérieurs au gaz carbonique.
Donc c'est des gaz, on appelle des gaz fluorés, qui sont des gaz qui sont à une quantité très très minime, mais qui sont spécifiquement utilisés notamment dans les tout ce qui est frigo. Ouais.
Altiane nous parlait de la couche d'ozone. C'est vrai qu'on a souvent des auditeurs qui nous parlent de ça. Et notamment aussi, on entend des jeunes qui disent « Mais voyez bien, la couche d'ozone, ça y est, on a énormément participé à réparer la couche d'ozone. Donc voyez bien que sur le climat, c'est comme ça que ça va se passer. »
Alors oui, sauf que la couche d'ozone, c'est un bon exemple en fait que la communauté internationale, avec les accords de Montréal, ont réussi à réduire l'utilisation des aérosols qui sont responsables du trou dans la couche d'ozone. Et on a vu que ce trou se résorbait. Et en fait, c'est un peu une cause, on va dire...
C'est bien,
prometteur.
Ça.
Et c'est prometteur aussi pour les questions de climat. C'est-à-dire que si on se met tous ensemble autour de la table, et c'est ce que montrent notamment les COP quand elles marchent, et notamment la COP21, où un accord un peu plus franc a été pris, on peut arriver à des résultats. La différence, c'est que la couche d'ozone, en tout cas le lien entre les gaz fluorés, les aérosols et l'ozone est un lien très facile à faire, très simple. Le climat, c'est beaucoup plus complexe dans le sens où de nombreuses activités, non pas que les aérosols, de nombreuses activités humaines sont en cause. Et donc la réduction de ces activités humaines est beaucoup plus complexe que celle qui a été faite pour réduire la couche d'ozone. Et je tiens aussi ici à préciser que la couche d'ozone est protectrice au niveau notamment des UV qui sont issus des rayonnements solaires, mais que l'ozone dans le système climatique a un rôle minime et différent que cette histoire de la couche d'ozone. Donc voilà, les auditeurs doivent séparer finalement, quand on parle de réchauffement climatique, on ne parle pas de couche d'ozone.
Vous parliez du...
Emmanuel.
Oui, Heidi Sevestre, je vous en prie.
Oui, je souhaiterais vraiment rebondir sur quelque chose que super important, je pense que Altienne nous a dit. Elle a partagé justement cette importance de motiver le passage à l'action. On voit avec le dernier rapport du GIEC, il n'y a plus aucun doute sur l'aspect scientifique du changement climatique. Ce qui est très important aujourd'hui, c'est de passer à l'action. Et en tout cas, je la salue, parce que c'est ce qu'elle nous explique, qu'elle essaie de motiver les jeunes, les personnes autour d'elle, de travailler sur des solutions. Et avec Demain, c'est nous, c'était vraiment l'objectif du projet, passer de la connaissance à l'action. Et c'est la meilleure façon aussi de faire barrage à cette éco-anxiété qui est très prenante au niveau des jeunes générations, il n'y a aucun doute là-dessus, mais de pouvoir montrer finalement le pouvoir de ces jeunes générations, qu'ils ont une voix que l'on doit écouter, qu'ils peuvent mettre en place des solutions à leur niveau, est très important. Et forcément, l'éducation, c'est la première étape vers le passage à l'action.
François Bernard, la gestion des émotions, l'éco-anxiété, comme on dit, est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti sur place, sur la banquise, avec les élèves, lorsqu'ils comprenaient les mécanismes du climat et à quel point ils étaient vraiment dans l'épicentre de toutes ces transformations près du pôle Nord ?
Ben justement, non. Et je dirais tant mieux. Parce que justement, si on est allé là-bas et si on s'est immergé en pleine nature, c'est parce qu'on voulait ressentir une émotion. Et ce n'est pas une émotion d'anxiété ou de peur ou d'angoisse pour le futur. Et c'est plutôt une émotion, c'est le sentiment d'amour pour la nature, si je veux simplifier les choses. C'est-à-dire que les élèves ont ressenti ça, ont trouvé la nature belle. Voilà, ils ont employé ces mots, mais qu'est-ce que c'est beau et voilà. Et qu'est-ce que c'est impressionnant. Et ils se sont dit, mais on ne peut pas abîmer ça, on ne peut pas abîmer ça.
Il y a eu des moments marquants de l'expédition.
Le sentiment principal, donc, c'est celui-là. Et oui, il y a eu un moment marquant, par exemple, qu'on a vécu avec Heidi. On est allé à l'intérieur des glaciers, sous les glaciers, où à certains moments, quand l'eau fond, elle crée des galeries qui vont sous les glaciers. On est allé sous le glacier et à un moment, avec Heidi, on est donc avec les élèves, il faut imaginer, un peu en tenue de spéléologie, comme si on était dans une grotte, voilà. On était dans des grottes, mais de glace. Et on avait des lampes frontales. On a éteint les lampes frontales. On s'est dit, là, on fait silence. Et là, d'un coup, on a entendu... on entendait le craquement du glacier, le glacier qui bougeait. On entendait des bruits, éventuellement son déplacement. On pouvait imaginer son déplacement. On pouvait imaginer des choses comme ça. Et là, on s'est dit, on entend le cœur de la Terre qui est vivant et qui venait résonner après, même avec notre propre cœur. Et en se disant, cette nature, elle est extrêmement vivante. Ça, c'était très émouvant. Ça a été très, très, très émouvant pour tout le monde.
Heidi Sevestre, pour aller en Arctique, on est à quoi ? Pas loin de 4000 kilomètres, hein, là où vous êtes actuellement.
Je crois que c'est ça, oui. Je crois que c'est à peu près 4000 kilomètres de la France.
Il faut prendre l'avion. Vous voyez où je veux en venir ? 8% des émissions de gaz à effet de serre, le secteur de l'aéronautique, si on prend aussi, on additionne pas seulement les vols, hein, mais les aéroports, etc. Les climatologues eux-mêmes disent qu'ils font tout pour voyager le moins possible. Qu'est-ce que ça a comme sens d'emmener une classe si loin ? Qu'est-ce qu'il en reste ? Est-ce que c'est à un moment donné une question qui a été mise dans la balance ou pas, François Bernard et Heidi Sevestre ?
Alors, ouais. on a tous les deux des réponses parce qu'on est habitué à cette question. Et ouais, effectivement. Donc, moi, j'ai plusieurs réponses. La première réponse, c'est qu'effectivement, on s'est posé la question tout de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai démarré le projet, cette idée de sensibiliser la jeunesse et l'adolescence à ce changement climatique qui est arrivé, à cet avenir comme ça, n'existait pas, enfin, n'était pas encore dans les habitudes. Tout ça pour dire que, par exemple, Greta Thunberg n'avait pas encore fait le lien comme ça avec entre la jeunesse et les générations futures.
Et donc, en 2019.
Oui, nous, on est partis en 2018 déjà. Et en 2017, on a commencé l'action et Greta Thunberg a commencé à intervenir, à faire ses premières grèves en 2018.
C'est-à-dire vous espériez que chaque élève qui rentrerait pourrait transmettre quelque chose, démultiplier l'expérience et que ça allait être plus important que le fait d'avoir pris
l'avion. Investissement. Moi, je me suis dit, je fais un investissement. C'est-à-dire que je parie sur ce choc, sur cette émotion. Je parie sur cette émotion. Et je sais que si jamais ça fonctionne, après, les élèves vont compenser plus que largement. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que dès qu'ils sont revenus dès qu'ils ont vécu cette expérience, maintenant, leur vie ils compensent. Voilà,
mais des émotions et des compréhensions scientifiques, Heidi Sevestre.
Bien sûr, aussi.
Oui, oui, tout à fait. Et je trouve que c'est très important ce que nous explique François. C'est un sujet, évidemment, qu'on a énormément débattu ensemble. Et on était tout à fait d'accord sur cette notion d'investissement, de comprendre la science, mais aussi de ressentir ce changement climatique avec ses émotions. Et c'est vrai que le changement climatique, on peut le voir autour de chez nous aussi, où que l'on soit dans le monde, on peut le ressentir. Et ce qui est beau, c'est de voir aussi que le projet Demain, c'est nous continue. Il fait aussi plein de petits en France et ailleurs. Et que cette année, par exemple, le projet va aller à la mer de glace, voir les glaciers des Alpes. Mais c'est vrai que pour nous, pouvoir directement voir l'expression du changement climatique dans son épicentre, dans sa chair, c'était vraiment le moment ou jamais pour le faire et d'emmener les élèves au cœur du Svalbard.
Et Heidi, d'ailleurs, tu peux citer, Heidi, ton anecdote sur la somme qui serait versée. Tu sais, si tu as quelqu'un qui t'avait dit si j'avais un million d'euros ou je ne sais quoi.
Oui, c'est un sujet qu'on discute énormément au sein de la communauté scientifique et j'avais posé cette question à un des meilleurs climatologues au monde qui est à l'université de Fairbanks en Alaska et je lui avais dit si tu avais 100 millions de dollars, qu'est-ce que tu en ferais ? Quelle serait la première mission, la première action que tu mettrais en place ? Et la première chose qu'il a dit de ma surprise, mais pas tant que ça finalement, il a dit écoute, je prendrais ces 100 millions de dollars et j'emmènerai tout le gouvernement américain au cœur de l'Arctique pour vraiment qu'ils se prennent le changement climatique en pleine face, pour le dire très, très littéralement, et qu'ils ressentent au plus profond d'eux-mêmes la force de ces paysages-là, mais aussi la fragilité de ces paysages, parce que tout ce qui se passe en Arctique affecte le reste de la planète. Donc voilà, lui aussi, il avait cette idée de faire cet investissement, d'emmener les gens s'éduquer par l'émotion, s'éduquer par la science au cœur de l'Arctique.
Oui, je rappelle, il y a quand même des entreprises pétrolières qui travaillent dans ces coins-là et qui ne sont pas ébranlées pour autant.
Alors, il y a énormément de réserves de gaz, de pétrole et de minerais rares en Arctique. Alors, ces compagnies sont largement ébranlées par le changement climatique, parce que là, ce que l'administration de Biden est en train de mettre en place en Alaska, c'est d'ouvrir toute une zone protégée à l'exploitation du gaz et du pétrole. Mais pour le faire, ils vont devoir artificiellement refroidir cette région, parce qu'elle se réchauffe beaucoup trop vite, pour continuer à l'extraire du gaz et du pétrole. C'est dingue, ce genre de décision en 2023 qui n'ont plus aucun sens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne veut pas refaire ces erreurs-là et qu'on met vraiment le paquet sur l'éducation. Parce que pour prendre les bonnes décisions, il faut comprendre à quel point l'Arctique, c'est fragile. Il faut comprendre ce qui se passe dans ces régions-là. Et j'ai une citation, je vais vous la partager, que j'adore, qui vient de Baba Dioum, qui est ingénieur sénégalais. Et il a dit cette phrase qui est très percutante. Il a dit à la fin, on ne protège que ce que l'on aime. On n'aime que ce que l'on comprend et on ne comprend que ce qui nous a été enseigné. Et c'est là où on comprend toute l'importance d'un projet comme Demain, c'est nous, toute l'importance d'une institution comme Office for Climate Education. Il faut aujourd'hui que tout le monde ait accès à ce genre d'informations.
Alors justement, Simon Klein, parce que dans le collège de La Rochelle, vous enseignez François Bernard, il y a maintenant une option qui s'appelle Demain, c'est nous, sur le changement climatique, hein, et qui donne lieu d'ailleurs à d'autres voyages, plus dans la même région, mais en tout cas ailleurs. Mais Simon Klein, vous, comment vous fabriquez à l'Office for Climate Education des modules prêts à enseigner pour les enseignants qui sont largement démunis sur tous ces phénomènes climatiques?
Oui, alors nous on répond à cette un petit point en fait on travaille à répondre à une vraie demande des enseignants dans le monde entier. Il y a une étude de l'UNESCO qui a pu montrer que notamment seulement 47% des programmes scolaires incluent le changement climatique, donc on a un vrai besoin d'inclusion de plus en plus, notamment dans les pays africains, d'inclure le réchauffement climatique comme, comme données scientifiques dans les programmes scolaires. Et en fait, il y a 80% des enseignants qui ont été interrogés sur les plus de 100 pays dans cette étude de l'UNESCO qui se disent volontaires et qu'ils veulent aller vers enseigner le changement climatique, qui disent que c'est une priorité. Et ils se sont seulement 30% à l'enseigner et ils montrent dans 80% des cas qu'ils ont besoin de formation et de ressources. Et donc, nous, on essaye de répondre à ce besoin qui est identifié par l'UNESCO.
Dans plusieurs langues, d'ailleurs.
Dans plusieurs langues. On travaille en français, anglais, espagnol, un petit peu en allemand. Et on produit des modules, et notamment, on produit des guides pédagogiques, qui sont des guides avec des activités clés en main, qui ont été testées avec des enseignants. On va voir des enseignants en France et dans d'autres pays. J'en ai un dans les mains, là, ouais. Mais on ne pouvait pas voir. Et tous ces guides sont libres de droit, ils sont gratuits, ils se trouvent sur notre site internet, oce.global.
On peut les commander ?
On peut les commander et se les faire livrer. Oui. Mais après, ils sont en PDF gratuitement et on peut les télécharger dans tous les pays. On a aussi des activités multimédia.
Donc là, n'importe quel enseignant qui nous écoute, où qu'il soit dans le monde, s'il nous comprend en langue française...
Avec un ordinateur, un téléphone ou une tablette, peut avoir accès à nos ressources, les télécharger, les modifier, s'en inspirer, les utiliser directement.
Un exemple en fait, c'est de comme cours, là, qui marche un exemple super de bien, cours qui marche cartonne.
Super bien, qui cartonne. Alors, je vais vous présenter un exemple. En fait, l'idée, c'est que c'est comme une recette de cuisine. On vous dit, prenez à peu près 10-15 minutes pour l'introduction. Faites ce type d'introduction. C'est vraiment, soit vous y allez... clé en main, soit vous piochez dedans les activités que vous voulez. Une activité intéressante, c'est pour faire comprendre aux élèves l'effet de serre qui est au cœur du changement climatique. La complexité là-dedans, c'est que c'est quelque chose qui est invisible et on a développé un jeu de rôle où on place les élèves comme différents éléments. Il y a des élèves qui vont... Une équipe qui va être gaz à effet de serre, une équipe qui va être infrarouge et une équipe qui va être énergie fossile. L'équipe infrarouge, en fait, son but à l'équipe infrarouge, c'est la Terre se refroidit, enfin la Terre... réémet de rayonnement infrarouge une fois qu'elle est réchauffée par le soleil et le rayonnement infrarouge cherche à s'échapper, à sortir hors de l'atmosphère. Sauf que dans cette atmosphère, il y a des gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, de manière naturelle, retiennent la chaleur et renvoient en fait les joueurs infrarouges vers la surface de la Terre. On fait un premier jet avec un effet de serre naturel, sans activité humaine, et on compte le nombre d'infrarouges qui ont réussi à sortir de la zone dans la cour de récré et qui sont arrivés dans l'espace. Ensuite, on réveille l'équipe endormie qui était l'équipe d'énergie fossile qui avait pu être endormie sous l'Antarctique et qui maintenant, grâce à Biden et autres, ressort et en fait l'utilisation de la voiture, l'utilisation de l'énergie fait qu'on enrichit l'atmosphère en joueurs et donc on enrichit la zone d'atmosphère et donc pour les pauvres infrarouges c'est beaucoup plus compliqué de sortir. On fait le même temps, donc c'est une expérience contrôlée, on les laisse courir pendant une minute, les mêmes règles du jeu et on compte. Et là les élèves ressentent Ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup moins d'infrarouges qui sont sortis. Et quand on est dans l'équipe d'infrarouges, ça devient compliqué finalement. Et on reste bloqué dans l'atmosphère. Et finalement, on réchauffe notre planète.
Voilà un match qui devrait se développer à grande échelle. Eddy Sevestre, il nous reste quelques secondes. Quelles seraient vos recommandations pour une véritable éducation à l'urgence climatique ?
Ah bah je vais aussi demander à François de m'accompagner pour ces quelques secondes, mais pour moi, il faut une révolution de l'éducation à la nature, de l'éducation au climat, à la biodiversité, et faire comprendre voilà, qu'on a besoin de tout le monde, y compris des jeunes et des moins jeunes, qu'on a tous une voix, qu'on a tous des moyens d'action, donc il faut qu'on comprenne ce qui se passe et que l'on mette ces moyens d'action en place.
Et que chaque tonne additionnelle de CO2 compte, François Bernard ?
Oui, c'est ça. Enfin, moi, je pense aussi, c'est pareil. Comme l'indique le livre donc, qu'on a fait avec Heidi, c'est un plaidoyer pour l'éducation au changement climatique donc, dans l'éducation nationale. Mais je propose aussi à la fin une idée qui, je pense, doit faire son chemin et auquel on doit discuter. C'est celle du service à la Terre, qui serait un peu en remplacement du service militaire, mais qui serait tournée justement vers une sensibilisation à la nature, à l'environnement et à toutes ces questions. Voilà,
formidable idée. On va terminer là-dessus, mais bien sûr, on y reviendra sur ces questions tout à fait essentielles. Et merci à tous les deux, à Heidi Sevestre, d'avoir été en direct de la banquise, pratiquement en Norvège. Vous êtes glaciologue et merci à vous, François Bernard, enseignant de technologie à La Rochelle. Vous publiez tous les deux « Demain, c'est nous », plaidoyer pour l'éducation au changement climatique. Et merci à vous, Simon Klein, médiateur scientifique à l'Office for Climate Education. On va bien sûr vous mettre le lien sur la page de l'émission sur RFI.fr pour que les voisins et les voisines puissent télécharger tous ces documents prêts à enseigner dans n'importe quelle école du monde. Dans quelques instants, ce sera le journal sur RFI. Ce sera juste après King Ahisoba, Star Ogana avec sa guitare Colobo à deux cordes, une pépite choisie par Romain Dubrac chez 8 milliards de voisins.
Voisins, c'est fini.